Vous écoutez l'épisode 137 du podcast « Mes trucs de prof, 10 façons de travailler à plusieurs ». Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de prof », je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Dans le monde de l'enseignement, on évoque souvent la notion de collectif, de travail d'équipe. D'ailleurs, on parle d'équipe pédagogique, puisque quand on enseigne, il y a une réelle nécessité à prendre des décisions collectives, étant donné que nous n'intervenons pas seuls dans le parcours, dans la scolarité des élèves. Travailler à plusieurs, c'est donc une compétence professionnelle qui est attendue, si on regarde le référentiel des compétences, et pourtant on n'apprend pas à le faire. Et ce n'est pas toujours évident, puisqu'en réalité, il y a beaucoup de solitude ressentie, parfois même au sein d'une équipe, et même au sein d'une équipe qui fonctionne bien et qui s'entend bien. Pour ma part, j'ai toujours cru en la force du collectif et j'ai vraiment pu constater de réels bienfaits à travailler à plusieurs, et par plusieurs j'entends plus de deux. J'y ai trouvé de l'émulation intellectuelle qui pour moi m'est indispensable pour rester motivée. J'y ai trouvé aussi du soutien quand c'était parfois difficile avec les élèves ou avec les familles ou avec l'équipe. Et j'y ai aussi trouvé du relais dans des moments de down ou de recadrage de mes idées quand toutes mes idées se mélangent. Mais travailler à plusieurs, ça aussi était parfois une source de frustration, voire même de conflit. Parfois, on a envie d'embarquer tout le monde avec nous dans une équipe et ça prend pas et c'est hyper frustrant. Et à d'autres fois, on se retrouve embarqué dans un projet qui ne nous motive pas plus que ça ou qui ne nous parle pas et qu'on est obligé de faire au nom du collectif. Et en fait, travailler à plusieurs, travailler en équipe, ça nécessite de s'adapter, ça nécessite parfois du cadre, donc de la flexibilité, ça nécessite aussi du consentement, c'est-à-dire le respect des limites et des besoins de chacun et l'accord de chacun pour s'engager dans un travail d'équipe. Et puis ça, surtout, ça nécessite de l'intercompréhension. On a besoin de se comprendre les uns les autres pour pouvoir faire de la place à tout le monde et essayer justement d'utiliser cette flexibilité. Nous avons toutes et tous des besoins et des modes de fonctionnement différents et il faut pouvoir en avoir conscience, déjà pour soi, mais aussi avoir conscience que tout le monde ne fonctionne pas comme nous, que tout le monde ne pense pas comme nous, que tout le monde n'a pas forcément les mêmes aspirations, les mêmes priorités que nous. Et c'est ça qui va nous permettre après de trouver comment bien travailler ensemble. Il y a vraiment de la place pour tout le monde dans une équipe et quand on trouve comment on peut fonctionner ensemble dans le plaisir et en même temps d'avancer tous ensemble dans la même direction, et bien finalement cela génère vraiment du bien-être au travail, de la satisfaction, de la motivation. J'ai donc envie de vous faire une petite série d'épisodes qui seront axés sur la dimension de collectif, d'équipe dans les métiers de l'enseignement. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire réfléchir et de vous donner des pistes sur comment on peut travailler à plusieurs, comment on peut faire équipe, comment on peut mieux se comprendre, se soutenir, etc. Parce qu'il y a un réel enjeu de bien-être au travail et de sérénité à améliorer les relations dans une équipe et même vraiment à travailler ensemble. Parfois, on peut avoir l'impression que quand il y a des difficultés relationnelles, en fait, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Mais en réalité, travailler ensemble, faire ensemble, penser ensemble dans un cadre professionnel, ça va parfois être l'antidote justement aux difficultés relationnelles. C'est-à-dire que parfois, c'est en faisant ensemble, en travaillant ensemble, qu'on apprend à mieux se connaître, à mieux se comprendre et qu'on donne du sens à ce qu'on fait et qu'on arrive à passer au-delà des divergences de caractère, d'opinion, etc. C'est vraiment pour ça que je vais commencer par cet épisode-là sur comment travailler à plusieurs, parce que c'est en travaillant à plusieurs qu'on crée de la cohérence d'équipe, qu'on apprend à se connaître professionnellement, et c'est cette cohérence d'équipe qui permettra ensuite de créer de la cohésion et qui apportera, qui améliorera en tout cas le climat scolaire entre professionnels mais aussi entre élèves. C'est un des sujets que je traite dans les accompagnements de direction d'école, en coaching ou en formation. Et on pense parfois que pour améliorer les relations d'une équipe, il faut juste créer des temps de convivialité, mais ce n'est pas suffisant. En fait, il est important aussi de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, je vous propose plusieurs pistes pour vous permettre de modifier ou d'enrichir votre palette de modalités de travail à plusieurs, pour vous permettre aussi d'initier du travail à plusieurs. Évidemment, cette liste de propositions n'est pas exhaustive et l'idée, c'est de vous inspirer pour que vous vous lanciez et que cela vous donne d'autres idées. Parce que proposer de travailler avec d'autres, c'est aussi une façon de faire un petit pas vers les autres. Et même dans des contextes parfois un peu difficiles relationnellement parlant, on peut chercher comment on peut, malgré tout, travailler ensemble, se retrouver sur des questions professionnelles. Donc la première petite étape, la première petite marche vers le travail en équipe, c'est le partage de ressources, le partage d'idées, le partage de trouvailles. Ça peut être quelque chose comme « Ah tiens, j'ai rédigé un mot pour la sortie, je vous le mets à disposition si ça peut vous servir » ou « J'ai trouvé un super site, je vous le partage » ou encore « J'ai préparé une séquence pour ma classe, est-ce que ça intéresse quelqu'un ?» Ce n'est pas encore à proprement parler du travail d'équipe, du travail à plusieurs, mais c'est un pas vers l'autre et c'est un signe d'ouverture. Il y a des personnes dans les équipes qui n'osent pas demander et qui du coup vont être aidées par ce genre d'initiative parce qu'elles vont se sentir autorisées à prendre et aussi à donner. Il y a des personnes qui ont plein de choses à partager mais qui n'osent pas le faire parce qu'elles se disent, et je suis sûre que certains et certaines se reconnaîtront parmi vous, qui se disent que ce qu'elles font c'est pas assez bien, c'est pas à la hauteur. Et puis parfois, eh bien, oser demander, ben, ça les aide aussi à oser partager. Parfois on se dit, ah oui mais moi je partage mes documents et elle donne rien, elle garde tout pour elle. Eh bien sachez que souvent, c'est surtout un manque de confiance en soi. Ne jugez pas trop vite. Demandez franco, j'ai vu que tu avais fait de super séances de science, est-ce que tu serais OK pour la partager ou au moins pour me la présenter ? N'ayez pas peur qu'on vous pique vos idées. N'ayez pas peur de partager ce que vous faites. Comme je disais à mes élèves, si on t'a copié, c'est que c'était une bonne idée. D'ailleurs, dans son livre qui s'appelait « Libérer votre cerveau », Idriss Aberkane, il disait ceci, « Tout ce qui est matériel est fini ». Et donc, quand on partage un bien matériel, eh bien, on le divise. Par contre, le savoir potentiel, lui, il est infini, il est immatériel. Et donc, quand on partage un bien immatériel, quand on partage un savoir, une idée, en réalité, on le multiplie. Et je trouve que de voir les choses comme ça, ça invite vraiment à laisser de côté cet état d'esprit du manque et de la possession et d'aller proposer, partager ce qu'on a à partager avec les autres. Donc ça, c'était vraiment la première piste de se dire quand on veut aller vers du travail à plusieurs, on peut accepter de partager ce qu'on a ou aller demander aux autres s'ils veulent bien partager leurs idées, ce qu'ils ont fait, etc. Je me souviens d'une collègue dans mes premières années d'enseignement à qui j'étais allée dire « Mais c'est génial ce que tu fais, tu voudrais pas me montrer ?» Et en fait, cette collègue, elle pouvait donner l'impression de faire ses petits trucs dans son coin, d'être un petit peu timide, etc. Et quand je lui ai proposé la question, elle m'a dit « Mais oui, mais avec grand plaisir. » Elle m'a fait venir dans sa classe, elle m'a ouvert tous ses classeurs, elle m'a dit « Sers-toi, prends. » Et en fait, elle avait pas l'impression de pouvoir le faire, de pouvoir proposer. Et elle attendait que ça, en fait, qu'on vienne lui demander de partager. À partir de ce moment-là, on s'est mis à discuter, à partager, à se proposer. Dès qu'elle faisait une photocopie, elle m'en proposait une, etc. Et tout ça, ça a été déclenché par cette petite question. Est-ce que tu veux bien me montrer ? J'apprécie ce que tu fais, est-ce que je peux voir ? J'aurais pu rester dans mon coin en me disant « Ah oui, personne ne me propose rien, ils sont tous hyper expérimentés. » Ben, en fait, non, j'ai été demandée et je me suis rendu compte que les personnes, elles n'attendaient que ça, de pouvoir partager. Et puis ne vous arrêtez pas au premier refus, à la première réaction un peu crispée, parce que des fois les personnes ne sont pas habituées à ce qu'on vienne vers elles, à ce qu'on les sollicite, à ce qu'on leur demande ou à ce qu'on leur donne. C'est un peu comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous marchez dans la rue, vous ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous parle, et donc quelqu'un vient vers vous, Et du coup, pendant quelques secondes, vous êtes un peu sur la défensive, le temps de comprendre que la personne ne vous veut pas de mal. Et donc, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que vous allez peut-être, il y a peut-être des personnes qui ont peur, qui n'ont pas l'habitude, qui ont plein de pensées différentes des vôtres. Et quand vous allez aller vers elles pour leur proposer ou pour leur demander, ben, les premières fois, elles ne vont pas être habituées et leur réaction, elle va être un peu froide. Mais petit à petit, quand elle voit que en fait il y a rien de méchant derrière et qu'au contraire vous êtes juste dans le don et dans le partage, et ben ces personnes, elles vont un peu se dérider. Et puis si c'est pas le cas, et ben tant pis pour elles. La deuxième chose, la deuxième piste pour pouvoir travailler à plusieurs, c'est le fait de pouvoir se réunir pour soit faire ensemble, soit partager son travail, soit réfléchir ensemble. Donc je vais commencer par réfléchir à plusieurs, parce que ça c'est vraiment un levier puissant de progression et de gain de temps. Quand quelque chose bloque dans vos préparations, dans vos pratiques, quand vous manquez de temps, sollicitez un petit groupe de collègues pour réfléchir à plusieurs. Il n'y a pas besoin de faire une réunion formelle d'une heure, parfois 10 minutes, 5 minutes peuvent suffire. Par exemple, vous êtes là, est-ce que qui serait dispo 10 minutes de 13h à 13h10 juste pour m'aider à y voir plus clair sur ma préparation de semaine ou sur ma séquence de mythologie pour les 6e 3 ou pour ma séquence de lecture pour les CP. Enfin bref, juste de prendre le temps quand c'est trop confus, trop flou, d'aller trouver une ou deux ou trois personnes qui pourraient vous aider à clarifier les choses en quelques minutes. Ça peut commencer comme ça et ensuite petit à petit quand on prend l'habitude de réfléchir à plusieurs, eh bien on se rend compte que ça nous fait vraiment avancer et tout le monde se met à le faire et ça crée vraiment une émulation qui est puissante parce que ça va nous faire gagner du temps, parfois ça va nous aider à clarifier des choses et vraiment c'est pas du temps perdu et parfois il n'y a pas besoin que ce soit très très long. Ensuite, il y a l'idée de se partager le travail. Alors, je le mets après le fait de réfléchir à plusieurs parce que se partager le travail est beaucoup plus efficace et facile à prendre en main quand ça suit une réflexion collective. Parce que prendre en main quelque chose qu'on n'a pas pensé, c'est hyper compliqué. Donc, imaginons que vous soyez trois collègues et que vous ayez trois séquences à faire et que vous commencez simplement par vous les partager. Donc, chacun prend en charge une séquence différente. Sauf qu'au moment de prendre en main la séquence, quand vous ne savez pas comment l'autre personne a pensé la séquence, pourquoi elle a fait tel ou tel choix et pas cela, eh bien, il est très difficile de la prendre en main et de la mettre en œuvre et ça demande du temps et parfois on a envie de refaire des choses, de modifier des choses parce que ça ne nous convient pas complètement, on l'aurait pas fait comme ça, et finalement ça nous donne quand même un peu plus de travail parfois que si on l'avait fait tout seul. Alors que si on prend un temps pour réfléchir ensemble et qu'on se dit ok, qu'est-ce qu'on ferait sur le plutôt, comment on voit la séquence 1, comment on voit la séquence 2, ok, la séquence 3, on réfléchit, on clarifie et qu'ensuite on se partage le travail pour tout ce qui est mise en page, création de contenu, etc. Là c'est vraiment un gain de temps. Parce qu'au moment de vous approprier le travail, vous savez déjà à quoi vous attendre et vous n'avez pas besoin de vous plonger pendant 2 heures dans la séquence de l'autre personne pour la comprendre. Ensuite, une troisième modalité dans le fait de se réunir pour faire ensemble, partager ensemble ou réfléchir ensemble, c'est ben, de faire ensemble. C'est le troisième aspect. C'est vraiment hyper formateur et hyper intéressant de faire à plusieurs. Ça peut en revanche être un peu plus chronophage et sans cadre de temps ou sans cadre d'objectif, on peut passer un bon moment mais prendre vraiment beaucoup de temps pour faire quelque chose. Faire ensemble, en fait, ça peut aussi être compliqué quand tout le monde ne s'entend pas hyper bien ou quand chacun a des façons de travailler différentes. Donc, on n'est pas obligé de faire ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Par contre, ça peut être hyper intéressant pour une première session de travail, notamment quand il y a des novices et des plus expérimentés, ben ça permet de donner à voir comment on fait pour qu'ensuite chacun puisse devenir plus autonome. Donc, faire ensemble, on a parfois tendance à penser que c'est ça, travailler à plusieurs, mais c'est pas toujours le cas. S'il y a des petites tensions, si vous n'avez pas du tout les mêmes façons de faire, et ensuite faire chacun à sa sauce. Ensuite, d'un point de vue pratique, pour rendre tout ça possible, parfois on peut imaginer se réunir virtuellement. Je sais que certains et certaines sont allergiques au visio, néanmoins c'est vraiment parfois un moyen bien efficace de travailler ensemble à défaut de pouvoir se voir, parce qu'on va économiser le temps du déplacement, parce qu'on peut le faire du coup sur un très petit temps, se dire on se donne 30 minutes de chez soi, on le fait, etc. Et c'est notamment bien pratique pour réunir aussi des personnes qui sont éloignées. On peut aussi gagner du temps en travaillant de manière collaborative sur des documents en ligne, c'est-à-dire de travailler simultanément sur un même document, et ça facilite la collaboration et puis la rétroaction en temps réel. Donc on peut avancer comme ça ensemble. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, mais qui peut être hyper utile. Une autre manière de travailler à plusieurs, ce n'est pas forcément de travailler sur le même objet, mais de travailler au même endroit. Alors attention à ne pas vous mettre dans un endroit où tout le monde n'a pas le même objectif, c'est-à-dire où tout le monde n'est pas en train de travailler. Moi, personnellement, j'étais la reine de « je descends déjeuner dans la salle des profs avec trois piles de cahiers pour corriger en même temps que je parle. » Et au final, je remontais à 13h30 en classe avec un cahier même pas corrigé en entier. Donc j'admire celles et ceux qui sont capables de faire ça en salle des profs. Mais moi, j'aime trop échanger, j'aime trop parler pour rester concentrée et travailler à ces moments-là. Donc ce que je vous propose là, c'est plutôt de décider de se mettre à plusieurs à travailler au même endroit pour s'aider ensemble en fait à tenir ses objectifs. C'est différent, on ne fait pas la même chose, mais on se soutient dans notre autodiscipline. Donc si vous savez que vous êtes dans une semaine de rush, que pour X raisons, vous devez vraiment réussir à avoir corrigé 20 cahiers avant la fin de la pause déj, vous pouvez travailler à plusieurs pour s'aider à tenir cet objectif-là et se soutenir avec quelqu'un d'autre qui a un autre objectif de « faut que je finisse mes affichages » ou « faut que je fasse ci ou fasse ça » et où on se soutient les uns les autres. Une autre manière de travailler ensemble, c'est de créer un collectif ou un petit groupe autour d'une thématique professionnelle, et l'idée c'est vraiment de se co-développer ensemble, d'avancer, de débriefer ensemble. Donc vous pouvez tout à fait créer une petite équipe de personnes et vous fixer des rendez-vous réguliers pour avancer et clarifier vos problématiques professionnelles. D'ailleurs, sachez que si vous constituez un petit groupe et que vous avez besoin d'une coach ou d'une mentor ou d'une facilitatrice, vous pouvez me solliciter pour animer votre groupe. Mais il y a cette idée de se dire, on peut donner rendez-vous ou quelques rendez-vous ou même un seul rendez-vous pour travailler sur une dimension précise à plusieurs et réfléchir à des solutions avancées avec les autres. Une autre manière de travailler à plusieurs, c'est de collaborer, c'est-à-dire que chaque personne va réaliser une tâche à sa manière, mais pour atteindre un objectif commun. Donc on a un but final vers lequel on veut aller, par exemple, j'ai n'importe quoi, un projet d'exposition d'art plastique, et chacun va apporter sa petite contribution. Sauf que les éléments de chacun sont parfois interdépendants. Par exemple, telle classe est censée faire le fond et telle autre classe est censée faire les éléments qui vont se mettre sur le fond. Et donc, comme certains éléments d'un projet collaboratif peuvent être interdépendants, ça veut dire qu'il faut désigner une personne qui se charge de coordonner, de relancer, de voir où les choses en sont. Donc dans une équipe, ça peut être le rôle de la directrice ou du directeur, mais pas forcément, ça peut être un enseignant. Enfin, c'est juste penser, quand on est dans un projet collaboratif, penser pour que les choses, elles avancent et qu'on s'assure de leur réussite. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le projet, de dire qui est-ce qui se charge de ce suivi-là, de relancer et de qui on acceptera du coup aussi ce rôle-là, sans penser que c'est la personne chiante qui nous saoule. Et donc c'est cette personne qui aura la charge de rendre l'organisation visible, de rappeler les dates limites, les échéances, etc. Et donc on va mutualiser parfois certaines ressources, certains supports quand on travaille en collaboration, mais vraiment chacun va aussi avancer dans son coin à sa façon avec son expertise. Donc ça offre quand même une certaine liberté. L'autre option, c'est plutôt que de collaborer de cette façon, c'est vraiment d'être dans un travail coopératif, c'est-à-dire où chaque personne réalise une partie de la tâche, mais où le tout est vraiment co-construit et pensé ensemble. C'est un peu comme le faire ensemble de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est dans un projet coopératif, on avance tous ensemble, en même temps, tout le monde contribue en même temps, à la même hauteur, à l'avancée du projet, et on avance vraiment en collectif ensemble. Il y a moins de détachement individuel. Et du coup, là, il y a vraiment besoin d'avoir quand même du cadre, que quelqu'un guide pour pouvoir faire de la place à tout le monde, que ça ne génère pas de frustration, d'incompréhension. Ça demande quand même de vraiment penser le cadre, penser la vision, penser le mode de fonctionnement à plusieurs avant et de le réguler pendant tout le projet. Une autre façon de travailler ensemble qu'on voit souvent dans les équipes, c'est l'idée d'uniformiser les pratiques ou les supports, etc. Uniformiser, ce serait donner la même forme à quelque chose, faire de la même façon ou bien avancer en même temps. Je dois quand même vous apporter quelques points de vigilance quand on veut uniformiser, parce que d'expérience, ce n'est pas toujours pérenne, notamment quand on uniformise sur la forme et pas sur le fond. On se retrouve parfois avec des décisions qui sont prises, mais que personne ne suit vraiment dans sa classe, et donc il vaut mieux uniformiser l'objectif, éventuellement un timing, mais pas forcément la forme. Et puis, quand on uniformise, il faut vraiment veiller à le faire avec suffisamment de souplesse pour que chacun et chacune s'y retrouve. Et puis surtout, il faut que cette uniformisation, elle fasse sens pour les personnes qui y sont soumises. Pourquoi on uniformise? Quelles en sont les plus-values? Pour qui? Est-ce que les personnes à l'origine de cette décision sont toujours là? Parce que parfois, dans les équipes, on se retrouve à avoir uniformisé il y a 6 ans quelque chose et plus personne n'est là, on ne sait plus pourquoi on l'uniformise et ça embête tout le monde et ça n'a plus de sens. Donc, il faut également penser à re-questionner cette uniformisation chaque année. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on modifie un peu? Et en expliquer les tenants et les aboutissants aux personnes qui arrivent dans votre équipe. Sinon, c'est simplement vécu comme un carcan, comme une privation de liberté pédagogique. Imaginez-vous que vous arriviez dans une équipe et qu'on vous dise « Ah ben ici, tout le monde commence l'année par telle œuvre et c'est comme ça. » Et puis vous ne savez pas pourquoi, en plus vous n'aimez pas cette œuvre. Et donc au mieux, ben, vous le faites sans y mettre de sens et c'est vraiment la plaie pour vous et pour vos élèves aussi, donc vous subissez quelque chose sans comprendre, et ça met directement un petit coup dans votre motivation. Au pire, ben, vous refusez et ça entache tout de suite vos relations dans l'équipe, alors que si on vous explique et que c'est rediscutable pour l'année suivante par exemple, ben, ça change un petit peu la manière de le vivre. Et puis si en plus on vous dit, bon ben voilà, on fait tous cette œuvre-là parce qu'on l'a décidé l'année dernière, parce qu'on a vécu telle chose en équipe, mais si tu veux, tu peux prendre autre chose parce que l'essentiel c'est de commencer par une œuvre qui fédère, ou voilà, enfin bref, ça marche encore mieux pour enrôler la personne, pour vous enrôler dans le travail d'équipe. Vraiment, si vous avez uniformisé des choses dans vos équipes, que ce soit des œuvres à étudier, des programmations, que ce soit des emplois du temps, enfin bref, tout ce que vous avez uniformisé comme pratique dans vos équipes, pensez à régulièrement les réinterroger, les réexpliquer, les présenter aux nouvelles personnes qui arrivent et voir s'il n'y a pas des adaptations à faire et si tout le monde s'y retrouve. Parfois, travailler ensemble, ce n'est vraiment pas évident, surtout dans de grosses équipes, quand on augmente la diversité des personnes, la diversité des besoins, la diversité des valeurs, des pratiques, de l'expérience, des appétences, etc. Et s'il faut garder une chose en tête, c'est que nous ne fonctionnons pas toutes et tous de la même façon, et que quand on veut embarquer les autres dans un travail d'équipe, il faut faire l'effort de parfois trouver des compromis pour que tout le monde s'y retrouve et mette du sens, et qu'il est important de savoir comment les gens veulent s'impliquer, se mettre d'accord collectivement sur l'objectif qu'on vise, et un projet n'est commun que si tout le monde est d'accord pour que ce soit un projet commun, et que si l'objectif est commun et partagé. Donc quand on veut embarquer son équipe dans un projet qui nous tient à cœur, il faut vraiment être prêt, 1, à faire des compromis, 2, à prendre le temps de faire cette pédagogie, le temps de convaincre finalement, de comprendre comment la personne, elle perçoit le projet, qu'est-ce qui ferait sens pour elle, quelles adaptations on peut apporter pour que tout le monde s'y retrouve. Sinon, ce sera de la frustration pour la personne qui essaye d'embarquer tout le monde et qui n'y arrive pas. Et ce sera aussi potentiellement source de petites frictions, de petites tensions, etc. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Ah, et j'oubliais, si vous avez envie de recevoir des compléments à mes contenus, des petits exercices d'auto-coaching et des actus deux fois par mois dans votre boîte mail, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter.